Bienvenue dans l'émission Urgence, présentée par la section de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche des Casseville et CFM. Nous allons parler de démocratie et d'égalité de citoyens. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la démocratie est privée d'oxygène, que l'égalité est en jachère. Pour Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et Albert Camus a dit « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité ». Marichaud Moissé, membre de la Ligue des droits de l'homme, est notre invité, et c'est Serge Calmels qui l'interroge. Bien sûr, nous écouterons le micro-trottoir réalisé sur le marché de Villefranche, et nous retrouverons en fin d'émission Dominique Ladet pour son billet d'humeur, et tout de suite, une petite pause musicale avec Jean Ferrat, Ma France.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Quelle définition donnez-vous à la démocratie ?
Quelle définition je donne à la démocratie ?
Ah ouais, ça c'est une grande question, la démocratie, bon, c'est être libre de dire ce qu'on a envie déjà.
De vivre dans un pays libre, joyeux, heureux.
Je pense que c'est quelque chose de très important pour les citoyens que nous sommes.
Un maximum de liberté.
Pouvoir faire un peu ce qu'on veut, presque.
Sans déranger les autres, quoi.
Avec un minimum de lois, de règles, ouais.
Il faut savoir où s'arrête la démocratie, mais bon, d'accord.
Puisque on est dans un pays démocrate et je crois qu'il y a beaucoup d'autres pays qui aimeraient avoir la démocratie qu'on a nous ici en France.
Eh bien, liberté, égalité, fraternité.
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe un peu dans les pays voisins et on voit ce que ça donne quand la démocratie est remise en cause.
C'est la liberté, hein.
De la presse, de parole, économique aussi. C'est-à-dire qu'une démocratie, quand les gens n'ont pas d'argent, c'est difficile. Et après, la démocratie, bah, c'est le luxe de sociétés qui ont suffisamment d'évolution pour se le permettre. C'est très compliqué, la démocratie. On le vit tous les jours en France.
Vous sentez-vous réellement représenté par les personnes que vous avez élues ?
D'abord, les gens qui sont au pouvoir, c'est des carriéristes.
On va dire qu'à 62% à peu près, oui.
Non.
Non, mais c'est bien fait pour moi. C'est toujours le jeu des politiciens, c'est qu'on promet beaucoup de choses et puis à l'arrivée, les promesses ne sont pas tenues.
Ils ne tiennent pas compte du besoin des gens qui sont soit à la retraite, soit en activité.
On n'est plus dans une vraie démocratie. Les gens qui sont élus sont dans l'oligarchie.
Dès qu'ils ont le pouvoir, ils oublient complètement les problèmes concrets de la vie quotidienne des gens.
Tout ce qui devrait servir au bien public, ça leur sert à eux et à leurs copains. Donc je ne me sens pas représentée par ces gens-là.
Cumul des mandats, député pendant 20 ans, maire pendant 30 ans. Qu'en pensez-vous ?
Ben moi, je dis que c'est toujours bien d'avoir un maire qui est député. Ça apporte toujours quelque chose à la ville. Ouais, moi, ça ne me dérange pas.
Quand on a 3 mandats, ça fait déjà beaucoup.
À mon avis, ils ont difficile de se mettre à la place de tout le monde.
Puisque le but, quand on est élu, c'est d'être proche des citoyens.
Parce que je ne connais pas qui soit élu, qui n'est pas un bon salaire.
Et avec plus de 3 mandats, je crois qu'on s'éloigne des citoyens.
Je ne vois pas les gens qui peuvent être à Paris et dans les campagnes ou dans les mairies et s'occuper des besoins des gens, quoi. Enfin, c'est pas plausible, quoi. Enfin.
Mais c'est difficile parce que de toute façon, toutes les personnes pour qui on vote, de toute façon, c'est des gens en principe qui sont bien installés dans la vie, qui ont des bons salaires, comparé aux gens qui galèrent, qui n'ont pas de travail ou qui ont des petits salaires.
Je suis contre le cumul des mandats.
Je suis contre le cumul des mandats.
Le cumul des mandats devrait être interdit, c'est clair.
Et les politiciens professionnels.
Totalement. Alors après, bon, il y en a qui ont peut-être aussi besoin d'argent, il y en a peut-être qui ont un goût du pouvoir exagéré, donc ils n'en ont jamais assez.
C'est pas normal tout ça. Non, non.
Non, bien sûr que non. Un voire 2 mandats, grand maximum, grand maximum.
C'est trop. Il faut savoir changer et qu'il y ait des jeunes en politique et surtout des femmes.
De quelle information les citoyens devraient-ils disposer pour décider lucidement ?
De quelle information ? Là, c'est difficile quand même, parce que tout le monde ne pense pas pareil.
De toutes. C'est-à-dire même celles qui sont en off, des fois, qu'on peut entendre.
C'est-à-dire qu'il faut être objectif et savoir ce qu'on veut.
Et qu'on nous dise bien la vérité.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais, d'autres qu'on apprend beaucoup plus tard. Si on les saurait sur le moment, ce serait peut-être mieux.
Et que ce qu'on dise, on l'applique et qu'on le fasse.
Pas de blabla toute la journée.
Pas de propagande de l'État.
Les choix qui sont faits, par exemple quand quelqu'un va dire « je suis élu sur tel programme », qu'on puisse vérifier qu'il ait bien appliqué son programme.
Des députés peut-être qui feraient des réunions ou des informations plus près des citoyens.
Il faut arrêter aussi de toujours porter la bonne parole parce que souvent c'est même plus d'informations qu'on a, on a tendance à avoir de l'intoxication presque.
À mon avis, je ne suis pas assez informé. Je suis informé comme TF1 informe.
Une information sans censure, même si on pense qu'il n'y en a pas.
Voilà, l'information, il faut qu'elle soit vraie ou alors ça ne sert à rien de raconter des conneries.
Peut-être aussi pour l'Europe, aussi des informations, une sorte de journal ou des réunions aussi, pour informer les citoyens.
Après, si vous lisez 1 ou 2 journaux, si vous regardez 2, 3 journaux télévisés, si vous participez à des débats, à mon avis, vous êtes bien informé. Il y a tout ce qu'il faut en France.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quel commentaire cela vous inspire ?
De quoi ?
J'espère que ce rêve va devenir une réalité.
Libre et égaux, ça c'est un grand mot parce que
ça serait tellement bien si c'était vrai.
Alors déjà, il y a une disparité entre les sexes. Il y a une disparité entre les habitants des pays riches et les habitants des pays pauvres, etc.
On est bien dans la liberté, on ne va pas dire qu'on n'est pas libre. Mais enfin, après, la liberté aussi, après, c'est un manque de moyens.
La démocratie, on a des partis en France qui essayent d'être très démocratiques dans leur fonctionnement. C'est le bordel fini, quoi. Donc, à un moment, il faut se mettre d'accord sur une ligne de conduite.
Il y a plein de choses où c'est trop injuste.
Et c'est plus facile d'être autoritaire. C'est plus facile d'avoir un tyran qui dit, vous faites comme ça, et puis pas autrement.
La justice, j'y crois pas. J'y ai pas confiance du tout, non. On n'est pas juste égaux, non, c'est pas vrai.
La chance n'est pas donnée à tout le monde.
Quand on voit la justice en France, on n'est pas sûr que ce soit, qu'on soit tous égaux devant la justice.
Les Français d'origine étrangère ne sont jamais égaux par rapport aux Français. C'est malheureusement pas vrai.
Et puis après aussi, la naissance pour l'éducation, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, notamment dans des banlieues, où de naître dans ces banlieues ne donne pas les mêmes droits, au moins. Peut-être pas tout à fait les mêmes droits au niveau du savoir.
Même pour les handicapés, tous les gens qui sont différents ne sont jamais égaux devant la loi.
C'est beau sur un papier, après dans la réalité c'est très compliqué. Et je répète, la démocratie c'est de la bagarre de tous les jours, quoi.
Il y a plusieurs justices.
Mais non, la démocratie c'est extraordinaire. Moi j'aurais du mal à vivre dans un pays où il n'y a pas de démocratie, quoi.
Bonjour. Marie-Jo Massé, vous venez d'écouter la retransmission du micro-trottoir réalisé par la Ligue des droits de l'homme et au cours duquel la population villefranchoise a été interrogée sur le mode de fonctionnement de la démocratie. Parmi les réponses aux questions posées, quelle est celle qui vous a le plus surprise ?
Oui, alors moi, ce qui m'a surtout interpellée, notamment en tant que citoyenne et en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, c'est le fait que les citoyens que nous avons interrogés ne se sentent pas représentés par leurs élus. Ils expriment une certaine défiance vis-à-vis des personnes qu'ils ont élues pour les représenter. Je pense que cette situation est extrêmement préoccupante pour la démocratie et, bien entendu, pour la Ligue des droits de l'homme, comme je l'ai dit précédemment. Mais contrairement à ce que vous me suggériez, je ne suis pas totalement surprise par ce type de réponse, parce que si on écoute bien ce que disent nos voisins, nos amis, etc., cette défiance s'exprime quand même assez quotidiennement. Et on en trouve l'expression dans les derniers sondages où se dessine un vote protestataire et qui serait un vote de défiance par rapport au parti de gouvernement.
Eh bien, pouvez-vous me dire comment vous expliquez cette réaction pessimiste de la part de la population ?
Bon, cette réaction pessimiste, certainement, a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes. Je crois que les élus sont certainement un peu trop éloignés des préoccupations du terrain, notamment souvent les parlementaires. Je pense qu'il y a le problème aussi des promesses non tenues. On peut citer quelques exemples, notamment par rapport à la dernière campagne présidentielle, où le président de la République actuelle avait promis qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ à la retraite. Et ce qu'il a fait, bien entendu, il avait promis une amélioration du pouvoir d'achat. Bien au contraire, on assiste à une dégradation du pouvoir d'achat. Il avait prévu une baisse des impôts. Et on assiste certes à une baisse certaine, enfin, pour certains, des impôts directs, mais avec toutes les taxes et tous les impôts indirects qui ont été décidés depuis l'élection présidentielle, on se retrouve avec finalement un taux d'imposition qui est beaucoup plus important. Donc je crois que ce ne sont que quelques exemples, mais je crois que ces choses-là, le fait que les élus fassent des promesses inconsidérées pour se faire réélire, le fait que ils ne les tiennent pas. Alors, ces promesses dont je parlais tout à l'heure, elles n'ont pas été tenues en raison de la crise, mais la crise à bon dos. Parce que la crise, c'est quand même quelque chose qui est inhérent à notre système économique, à la mondialisation, etc. C'est pas le tremblement de terre qui nous tombe dessus. C'est quelque chose, finalement, que le système a engendré lui-même. Donc, la crise, c'est pas un cataclysme naturel. Bon, d'autre part, je crois que en ce moment, si les citoyens se défient un petit peu de leurs élus, c'est parce que on demande beaucoup d'efforts au peuple, beaucoup d'efforts aux gens modestes, aux classes moyennes, etc. On en demande beaucoup moins aux élus. On a vu les débats sur, enfin les mesures sur les retraites des députés, etc. Et on a l'impression, les gens ont l'impression que les élus sont une classe de privilégiés qui prennent des mesures désagréables pour leurs concitoyens et qu'ils arrivent à s'épargner eux-mêmes. Donc je crois que c'est un certain nombre d'éléments de ce type. Alors je pense que les élus auraient tort, les élus et les partis politiques auraient tort de penser que leurs concitoyens ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Bon, je pense que également tout ce qui se passe en matière de conflits d'intérêts, d'affaires, de corruption, qui sont largement médiatisés. Et l'interférence très importante entre le pouvoir économique et le pouvoir politique conduisent à cette situation.
Bien, mais ne pensez-vous pas, cependant, que ce pessimisme de la part de la population est l'expression d'une prise de conscience. Et lorsqu'on dit prise de conscience, eh bien, on est obligé de considérer que ça va déboucher sur une remise en question de certaines réalités politiques et remise en question qui débouchera plus ou moins long terme sur un progrès, sur une évolution positive. Alors ne pensez-vous pas que ce pessimisme peut engendrer à plus ou moins long terme de l'optimisme?
Mais moi, je crois que c'est quand même heureux qu'on peut se féliciter que nos concitoyens prennent conscience de ce qui se passe. Nous avons, je pense, une population qui est quand même mieux éduquée, plus instruite. Je crois qu'il y a aussi l'importance des médias, parce que les médias, bon, certains sont aux ordres du pouvoir, mais il y a encore quand même un certain nombre de médias indépendants. Et puis, je pense qu'il y a aussi les nouveaux modes de communication, qu'est Internet notamment, et qui permet aussi de faire sortir des affaires ou des informations, surtout de mieux informer la population. Alors évidemment, tout le monde n'est pas égal devant l'information, mais je pense que les gens sont plus informés, et je trouve que c'est quand même salutaire que cette information circule de façon à ce que les gens puissent en faire une idée. Bon, je crois qu'il ne faut pas jeter non plus faut pas jeter l'opprobre sur toute la classe politique, mais d'une façon générale, je crois que les partis politiques seraient bien inspirés de regarder bien en face ce que pensent le ressenti de leurs concitoyens, parce que on va nous expliquer que effectivement les gens pensent comme ça, mais que c'est pas vrai, etc., etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est le ressenti de la population, et les élus seraient quand même bien inspirés d'écouter ce ressenti de la population, et au lieu d'accuser les sondeurs, de dire tel ou tel sondage est truqué, c'est vrai que bon, on peut avoir une certaine défiance par rapport au sondage, je crois qu'il faut se remettre en question, et je crois qu'il faut qu'ils analysent très clairement les raisons profondes qui font que aujourd'hui ce fossé se creuse entre les citoyens et les gens qu'ils élisent. Je crois que c'est très très important pour la démocratie, parce que si on ne fait pas ce travail de remise en question, si on ne refonde pas la démocratie, je crois que la démocratie française peut être mise à mal, et elle est déjà quand même pas mal mise à mal actuellement.
Au sujet donc de ce que vous venez de dire, là, de refondation de la démocratie, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience très développée actuellement concernant justement le contenu de la notion de démocratie. Et on s'aperçoit qu'elle présente deux pôles. Un pôle qui serait participatif et un pôle représentatif. C'est-à-dire que, d'un côté, les élus, une fois élus, représentent le peuple et le peuple n'entend plus parler de leurs actions ou de leurs réalisations. Mais à l'opposé, les élus prennent en compte à tout moment, pendant tout leur mandat, des désirs, des souhaits, des jugements portés par la population. C'est-à-dire que ça concerne la démocratie participative, concerne une participation, en quelque sorte, oui, de la population à l'action des élus. C'est-à-dire que les élus ne fonctionnent pas tout seuls, ils font appel à ceux qui les ont élus pour améliorer leur mode de fonctionnement et leur réalisation. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors moi je crois que nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on élit des gens, au suffrage universel qui sont censés nous représenter. Je crois qu'il est heureux et qu'on doit constater, et les élus doivent le constater, les partis politiques aussi, que nos concitoyens ont envie davantage de participer. C'est ce qu'on appellerait la démocratie participative. Alors moi, je ne pense pas, ça n'engage que moi, qu'on puisse opposer la démocratie représentative et la démocratie participative. Je crois qu'on peut trouver un système où l'on conjugue la démocratie représentative et la démocratie participative. C'est-à-dire que c'est aussi un effort que les élus et que les partis politiques doivent faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas élu pour 5 ans, pour 6 ans, et puis on ne s'occupe plus, on fait ce qu'on a envie de faire et on ne s'occupe plus de ce que pensent les concitoyens. Je pense qu'il y a une obligation pour les élus de rendre compte de ce qu'ils font et de consulter très régulièrement la population, leurs électeurs, sur les sujets importants. Alors c'est vrai que il y a des réunions de quartier dans les communes. C'est vrai que les parlementaires font des réunions, régulières pour rendre compte de leur mandat. Les conseillers généraux, pour certains, le font aussi. Mais si on regarde bien un peu à ces échelons-là, ce sont les élus communaux qu'ils rencontrent. Ce n'est pas la population. Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait des réunions publiques pour des réunions de débat, parce que je crois que c'est important qu'il y ait débat. Bon, après, évidemment, la décision politique, ce sont les élus qui la prennent, mais il faut qu'il y ait débat, et notamment, il faut prendre du temps de débattre. Aujourd'hui, il y a trop de pseudo-concertation, et notamment, le gouvernement actuel, je crois, est quand même un modèle en la matière de pseudo-concertation, c'est-à-dire que sur les retraites ou sur plein d'autres sujets, on lance des débats, on dit qu'on consulte, mais en fait, ces consultations n'ont pour seul objectif, on va le voir pour la dépendance également, le seul objectif, c'est de faire admettre à la population ce qui a déjà été décidé par avance. Donc ça, c'est de la pseudo-concertation. Les gens ne peuvent pas accepter cela. Et je crois quand même aussi que pour qu'il y ait plus de lien, parce que ce qui manque, on a l'impression, c'est le lien entre les élus et l'élu et ses électeurs. Et je pense que pour qu'il y ait plus de lien entre l'élu et ses électeurs, je crois qu'il faut rompre définitivement avec le cumul des mandats, avec la professionnalisation de la vie politique. Il faut un parlementaire, il doit être parlementaire, point. Parce qu'il a à s'occuper de l'intérêt général, mais on nous dira il faut qu'il soit maire, tout ça, pour connaître le terrain. Mais non, il fait des réunions régulières, il va voir les gens, il discute avec eux des grands sujets, il organise des débats et il aura la température de la population, aussi bien que s'il ne fréquente que des élus d'un autre niveau territorial.
Je vous remercie. Et puisque vous avez évoqué la question du cumul des mandats, les mandats qui effectivement se déroulent tout aussi bien dans l'espace que dans le temps, parce que on voit des élus qui cumulent les mandats dans l'espace. Ils sont élus d'une ville, ils sont élus au niveau régional, ils sont élus au niveau national, ils sont élus au niveau départemental, et donc cumulent des mandats dans l'espace, mais cumulent des mandats aussi dans le temps. Parce qu'il y a certains élus qui le sont depuis des décennies, je dirais pas des lustres, des décennies, je n'irai pas quand même jusqu'à parler de siècles, mais on a l'impression que toute leur vie gravite autour de leur fonction d'élu. Alors, on peut parler à ce niveau-là de professionnalisation de certains élus. Que pensez-vous de ceci et les remèdes à apporter donc à ces problèmes-là?
Bon, mais écoutez, lors du micro-trottoir, à l'unanimité, nous n'avons trouvé que des gens qui étaient, à une exception près, que des gens qui étaient contre le cumul des mandats. Je crois que tout le monde semble être d'accord. Les partis politiques semblent tous être d'accord pour le non-cumul des mandats, mais sauf que ça fait des décennies que ça dure, qu'on est tous d'accord contre le cumul des mandats et que les avancées sont quand même extrêmement lentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on est arrivé à avoir une modification pour le président de la République qui ne peut exercer que deux mandats consécutifs. Et très certainement qu'il faudrait... il faut éviter le cumul des mandats, c'est-à-dire plusieurs mandats à la fois, parce que je regrette, on peut pas être à Paris, à Toulouse, à Villefranche, à Rodez, etc. On peut pas tout faire parce que, en fait, soit on le fait pas... soit on le fait mal, soit on délègue aux administrations. Et ce sont souvent aussi les administrations qui dirigent dans les collectivités locales. C'est un réel problème aussi parce que les élus ne sont pas suffisamment présents et il faut limiter le nombre de mandats consécutifs. On a la palme d'or en Europe du cumul des mandats. Il n'y a pas un autre pays en Europe où l'on cumule de cette façon les mandat. Je crois que j'avais quelques chiffres là, je ne sais plus où je les ai mis, mais je crois qu'en France, on a 83% des parlementaires qui sont des cumulards. Bon, et dans d'autres pays, ça peut tomber, en Grande-Bretagne par exemple, on a 15% de parlementaires qui cumulent d'autres mandats. Parce que en plus, le cumul, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que c'est la course à l'échalote. On est maire, on est président de la communauté de communes, on est président du pays, de ceci, de cela, on est président d'un tas de choses. Et effectivement, on devient des professionnels de la politique. Et les gens ont l'impression que l'action... Alors c'est une impression, je ne dis pas que c'est la réalité... Mais c'est bien ce que les gens expriment, et ça c'est important, le ressenti des gens, comme je le disais au début de l'émission. On a vraiment l'impression que les élus n'ont d'autre souci que de se faire réélire. Et ils ont aussi le sentiment que l'intérêt général, parfois... leur importe peu et qu'ils sont au service de leurs intérêts particuliers ou de l'intérêt de leurs amis, de leurs proches. C'est quand même, je crois que depuis l'élection du président de la République actuel, je crois qu'au niveau national, là, on a fait très fort dans ce domaine-là. Ce qui peut expliquer aussi ce sentiment de rejet de la population.
Oui, concernant donc les possibilités offertes dans ce domaine, on peut se poser la question de savoir s'il est possible d'améliorer la démocratie. Bon, c'est certainement possible, mais de quelle façon et comment peut-on procéder pour que ces modifications rendent le fonctionnement de la démocratie plus efficace et plus équitable?
Je crois que je l'ai déjà dit, le cumul des mandats, je crois que c'est une plaie pour notre démocratie. Je crois qu'il faut... Alors, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut s'aligner sur l'Allemagne, sur tout un tas de sujets. Ben, on pourrait s'aligner aussi sur ce sujet-là, sur le cumul des mandats. Je crois qu'il faut qu'il y ait une exigence des citoyens pour que les élus rendent compte également et prennent en compte régulièrement... leurs demandes, leurs souhaits, leurs analyses, etc., qu'il y ait des débats, que les élus débattent avec la population. Je crois qu'il y a aussi une importance, c'est l'importance des contre-pouvoirs, qui sont à la fois le pouvoir, les syndicats, qui sont les associations. Actuellement, on a l'impression quand même que le dialogue social est un peu bousculé. On dialogue, mais c'est un dialogue à sens unique. Je crois qu'il faut également que il y ait des autorités indépendantes, réellement des autorités indépendantes, comme par exemple l'ALDE, le défenseur des droits de l'enfant, etc. Et là, on est en train, justement, de casser toutes ces autorités indépendantes pour en faire une seule autorité qui serait le défenseur des droits, mais dont le responsable, le défenseur, ce défenseur des droits serait nommé directement par le président de la République. Donc là, il y a problème d'indépendance. Il y a aussi problème d'indépendance des médias lorsque le président de la République désigne lui-même le responsable des chaînes publiques. Je crois que ça aussi, c'est très important, la notion d'indépendance de certaines des autorités est extrêmement importante. Et je pense aussi qu'il faudrait que les hommes et les femmes politiques deviennent exemplaires. Parce qu'on ne peut pas demander aux jeunes d'avoir un comportement irréprochable. On ne peut pas demander à la population de ne pas frauder, de respecter la loi si les élus ne la respectent pas eux-mêmes. Et je crois que toutes les affaires récentes ont été particulièrement ravageuses au niveau de l'opinion publique parce que c'est des efforts pour les uns, une sévérité très importante pour les uns, et puis un laxisme quasiment total pour les autres, une impunité parfois pour ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui ont le pouvoir soit politique, soit le pouvoir de l'argent. Donc je crois qu'il faut aussi essayer d'aller vers des comportements beaucoup plus vertueux. Je pense qu'il faut que l'intérêt général prime sur toute autre considération par rapport à l'argent, au profit, etc. Parce que notre société, qui est une société où l'humain est effacé par rapport au profit, par rapport à l'économie, c'est une société qui est très très malade et c'est une société où la démocratie est en danger.
Vous venez d'évoquer quelques solutions qui rendent susceptibles, disons, d'améliorer le mode de fonctionnement de la démocratie. Vous avez donc proposé plusieurs solutions, mais il y en est une sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est celle qui concerne le contact des élus avec les électeurs. Parce qu'on peut constater aujourd'hui que pratiquement à tous les niveaux, ces contacts sont pratiquement inexistants. Je ne veux pas dire par là que les élus ne font pas du bon travail. Certainement, ils font du bon travail. Mais est-ce qu'ils tiennent au courant les électeurs qui les ont mandatés donc pour les représenter, est-ce qu'ils tiennent ces électeurs au courant de leurs actions, de leurs réalisations? On n'en a pas l'impression. Est-ce que par ailleurs, ces électeurs ont la possibilité, en dehors évidemment des périodes d'élection, est-ce que ces électeurs ont la possibilité de suggérer certaines choses aux élus, de dire voilà cet aspect de la vie communale ou de la vie départementale n'est pas satisfaisante, est-ce qu'il ne serait pas possible d'apporter telle ou telle amélioration? Donc je pense qu'effectivement, en ce qui concerne ce problème du contact des élus avec les gens qui les ont élus, il faut modifier le mode de relation. Mais est-ce qu'on peut le faire de façon autoritaire ou non? Si on n'en fait pas une obligation, eh bien j'ai l'impression que ça continuera comme par le passé et nos élus continueront donc à travailler sans référer à personne. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre sur le papier, d'obliger en quelque sorte les élus à rendre compte à leurs électeurs? Je vous pose la question.
Oui, c'est peut-être une idée, mais c'est peut-être une idée extrêmement difficile à mettre en place. C'est une idée sur laquelle il est peut-être difficile de légiférer, parce que là, on est quand même dans le problème au niveau du comportement, au niveau de la considération qu'ont les élus pour leurs concitoyens. Alors, je pense quand même que la communication se fait mieux quand on est à une échelle locale. C'est-à-dire lorsque, bon, dans des petites communes ou des communes encore à taille humaine, comme Villefranche, où les élus rencontrent la population, etc. Bon, bien sûr, il y a un certain nombre de problèmes, mais les contre-pouvoirs peuvent se faire entendre quand même, et puis il peut y avoir une certaine écoute. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué au niveau national. Au niveau notamment des parlementaires, au niveau du gouvernement, Parce que vous disiez rendre compte, mais je crois qu'il ne suffit pas de rendre compte, il faut écouter. Et puis je crois que la démocratie, c'est aussi permettre aux citoyens de comprendre ce qui se passe, d'être informés, leur permettre de comprendre. Parce que c'est bien beau d'informer, mais il faut informer de façon objective, de façon compréhensible. Et je pense que c'est au niveau du débat. Il faut débattre, expliquer, plutôt qu'une information à sens unique. Il faut prendre du temps, on rencontre les gens de façon institutionnalisée. Il y a dans certaines communes des comités de quartier, il y a des réunions de quartier, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Bon, est-ce que ça fonctionne merveilleusement bien? C'est pas obligatoirement sûr, mais ça peut fonctionner. Légiférer sur l'obligation de rendre compte, peut-être, mais encore, il y aura quand même la dimension personnelle, la dimension humaine. Ça sera de savoir quelle est la conception que l'on a de rendre compte et d'écouter ses concitoyens. Et je crois que là, c'est un problème. Problème de l'éducation des élus, mais je pense que si un élu n'était pas élu à vie, faisait simplement deux mandats, et qu'il ne soit pas en permanence obsédé par l'idée de se perpétuer, s'il y avait plus de femmes dans la vie politique, très certainement, plus de jeunes, si les élus étaient plus représentatifs de la diversité de la population, peut-être que ça se ferait de façon peut-être plus naturelle et je suis pas sûre qu'on aurait besoin de légiférer. Je pense que c'est la nature de l'élection et ce cumul des mandats dans le temps et de le cumul de plusieurs mandats importants qui fausse tout, quoi.
Bien, la démocratie et la République aussi, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors ne prenons que le terme égalité. Égalité, évidemment, il ne s'agit pas d'une égalité dans tous les domaines. Tout le monde, il ne peut pas y avoir d'égalité dans les domaines, par exemple, socio-économiques. Il y a toujours quelques distorsions qui sont quand même supportables par une démocratie. Mais il y a une égalité qui doit être absolue, c'est l'égalité des droits. Que représentent pour vous les droits et est-ce que vous n'auriez pas l'impression actuellement qu'il y a une régression des droits, qui se produit une régression à ce niveau-là, c'est-à-dire que les citoyens disposent de moins en moins de droits du fait de la politique qui peut être menée actuellement?
Oui, très certainement, mais je crois que l'égalité des droits, c'est extrêmement important, c'est un combat permanent. Au fil de l'histoire, il y a eu des avancées et des reculs. Et je crois qu'effectivement, on est actuellement en période de recul par rapport à certaines époques au niveau de l'égalité des droits. On n'est pas en recul par rapport à 1789, mais on est en recul par rapport à certaines périodes de notre démocratie. Les droits, évidemment, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça, c'est l'article numéro 1. Et cette conception de l'égalité des droits, c'est une conception qui est un des fondamentaux de notre démocratie française, puisque cette idée fondamentale a été reprise dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au sortir de la guerre, et elle est reprise également dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui a été remaniée, cette Constitution qui a été amendée à plusieurs reprises, notamment la dernière fois en 2010, donc très récemment. Donc, je veux dire, c'est l'égalité des droits des citoyens, l'égalité des citoyens par rapport aux droits, est fondamentale, c'est le fondement même de notre démocratie. Et si on y porte atteinte, on porte atteinte au fondement même de notre République. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, égalité des droits, c'est égalité des droits devant la santé, égalité des droits par rapport à l'éducation, égalité des droits des hommes et des femmes, Faut dire qu'en France, quand même, on est parti de loin, puisque ce n'est qu'en 1945 que les femmes ont eu le droit de vote, alors que d'autres pays, même des pays qu'on considère comme pas très démocratiques aujourd'hui, avaient donné le droit de vote aux femmes depuis bien longtemps avant la France. Bon, c'est aussi l'égalité devant l'éducation. L'égalité devant un certain nombre de par rapport à l'égalité d'accès au transport, à l'énergie, etc. Ça, je crois que c'est ça, l'égalité des droits. Alors aujourd'hui, égalité des droits, je crois qu'ils sont quand même remis certainement en question.
Bien, vous venez de faire donc le constat suivant. On assiste à une régression des droits des citoyens, et vous avez cité quelques domaines, justement, où on peut observer cette régression. Mais alors, est-ce qu'on va se contenter de ce constat et en rester là, ou est-ce que vous estimez qu'il faut agir de façon à renverser la vapeur, hein ? Alors, s'il s'agit d'agir, de quelle façon, que faut-il faire ? Est-ce que vous avez une idée, quelques idées personnelles sur cette façon de procéder, de façon à rendre et puis à faire progresser aussi les droits des Français ?
Ben, les solutions apportées à cela, c'est, je crois, d'abord, les citoyens sont des électeurs, ils ont un bulletin de vote, donc c'est aussi le vote, c'est un élément fondamental de la démocratie. C'est là qu'ils doivent s'exprimer. Ils doivent aussi s'exprimer au travers de leurs associations, au travers de leurs syndicats, au travers de mouvements comme la Ligue des droits de l'homme. Nous faisons notre travail en essayant d'informer les gens. Je crois qu'il y a une bataille à mener. C'est chaque citoyen qui doit mener la bataille collectivement, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne s'en sortira pas individuellement. Il faut des combats collectifs. Je crois que rien n'est gagné, il faut toujours continuer à se battre. Si à certaines époques, on avait eu l'impression que les choses allaient mieux, que tout était gagné, je veux dire, après la dernière guerre mondiale, les acquis du Conseil, on a cru pendant longtemps que les acquis du Conseil national de la Résistance, du programme du Conseil national de la Résistance, seraient des acquis éternels. Peut-être qu'on s'est pas assez battu pour les préserver, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué en quoi ils étaient indispensables à l'égalité des citoyens, et peut-être que on a cru que tout était gagné, et puis maintenant on voit bien que tout est mis à mal, et ben il va falloir continuer le combat et certainement peut-être le reprendre et de façon peut-être un peu plus efficace.
Eh bien, Marie-Jo Moisset, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
Ben, merci.
Le monde bouge. Le mouvement, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Enfin, en général, car pour Haïti, le monde qui bouge, qui tremble, c'est la mort. Et l'immobilité de leurs dirigeants et de l'aide internationale, ça aussi, c'est la mort. Haïti a pourtant un besoin urgent et vital de changement, de mouvement, de démocratie, de redémarrage d'un gouvernement non fantoche et au service du bien commun, pas au service de ses membres. Pendant ce temps, des êtres humains souffrent et meurent. Des enfants naissent, vivent, souffrent et meurent, dans la fange qu'est devenu leur pays oublié du monde. En parlant du monde qui bouge, évidemment que l'actualité m'oblige à rajouter qu'au Japon, aussi la terre a tremblé, et très fortement, avec un tsunami d'ampleur exceptionnelle, et aux conséquences gravissimes pour les habitants des régions touchées. Comment ne pas compatir devant ces dégâts immenses, et d'abord en termes de vie humaine ? Le matériel peut être remplacé ou reconstruit, pas les vies et les dégâts sur les humains. C'est un dur rappel pour tous d'humilité, devant la nature qui peut montrer des forces destructrices gigantesques. La mise en œuvre de technologies avancées, l'intelligence humaine, peut tenter de réagir aux problèmes connus. Mais l'inconnu, ou l'accumulation de plusieurs phénomènes en même temps, l'ampleur de tels phénomènes ne peuvent pas, par définition, être prévus. Le risque zéro n'existe pas, surtout en termes de technologie humaine. Les conséquences secondaires, en plus, sont aussi le risque nucléaire. Est-ce bien un risque secondaire ou vital? Et le Maghreb et le Mashrek? Effectivement, je continue à avoir un immense sentiment de joie et d'espérance pour les mouvements en cours dans les pays du Maghreb et du Mashrek. Joie endeuillée par la réaction inhumaine et criminelle de certains dirigeants et au premier rang d'entre eux, le tristement célèbre colonel Muammar Kadhafi, qui n'hésite pas à faire tirer à l'arme lourde sur des femmes, des enfants et des hommes civils de son peuple. Avions et blindés ont été envoyés aussi. Réponse disproportionnée. Devant une foule qui tente de secouer un joug qui l'a servi. Crime contre l'humanité. Ou lâcheté d'une dictature au service d'un potentat et de ses poches. De ses proches. Enfin, de ses poches aussi. Mais j'ai d'autant plus d'espoir que ces mouvements sont venus d'une véritable lame de fond, partie de la base, partie de la rue, venant à la fois de la faim et de la soif de liberté, du peuple et de la bourgeoisie, ou du moins des jeunes de l'intelligentsia. Leurs forces sont aussi leurs faiblesses, nées sans cadre, uniques et particuliers. Ils se développent difficilement, mais pour l'instant sur un mode laïque. Et ainsi, naît dans le paysage politique des pays du monde arabe la possibilité, l'espoir d'une vraie alternative entre dictateurs et islamistes. L'espoir est là, mais le chemin sera très long et périlleux. Rappelons-nous quand même le temps qu'il a fallu à nos démocraties pour naître, grandir et vieillir, souvent mal vieillir. À la différence de certaines autres révolutions dans le monde, il n'y a pas de leader, pas de système prédéfini, pas de modèle spécifique. Et le prix à payer est toujours très élevé, parfois excessivement élevé. Combien de victimes encore avant la chute du système Kadhafi, s'il chute, et de son chef? Combien de victimes aussi avant que Laurent Gbagbo ne lâche la barre? Combien de femmes et d'enfants, combien d'innocents fauchés dans leur plus jeune âge? Combien de forces vives anéanties, gaspillées, sacrifié. Il faudra absolument un jour que la justice internationale soit saisie et sanctionne toutes ces exactions, ces lâchetés, ces crimes. Dans ce concert dissonant, où est la voix de la France? De son président, de son gouvernement et de ses partis politiques dits démocratiques. De ses associations pourtant bien actives. Ces voix ont mis beaucoup de temps et ont fait preuve de beaucoup d'hésitation et de retenue pour s'exprimer. Pour soutenir la quête de liberté de ces peuples. Comment peut-on laisser aujourd'hui un dictateur massacrer une grosse partie de son peuple? Comment peut-on? Toute une évolution encore est à venir, car on ne peut pas penser ou imaginer que cela ne puisse changer un jour. Et pendant ce temps-là, dans notre beau pays, changement de ministre, les fidèles sont récompensés, le système continue à reproduire de plus en plus d'inégalités. Dans tous les domaines, la répression prime sur l'éducation, sur la prévention. On préfère remettre l'étranger dans un bateau plutôt que de le considérer comme un être humain et susceptible d'être une richesse pour notre collectivité nationale.
La Ligue des droits de l'homme soutient le combat pour la démocratie que mènent les peuples dans des pays que l'on croyait figés dans la dictature et l'oppression. Ces hommes qui, au prix de leur vie, revendiquent leur droit à la liberté, à la dignité, nous montrent que si rien n'est jamais acquis, rien n'est définitivement perdu. Il faut continuer à réfléchir, à débattre, à sensibiliser nos concitoyens. La section de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche-de-Cazeville organise un débat sur le thème « Refonder la citoyenneté » avec la participation de Jean-Pierre Dubois, président national de la Ligue des droits de l'homme, le vendredi 15 avril à 20h30 à l'amphithéâtre du lycée Beauregard. L'émission du mois prochain portera sur la justice. À bientôt. Venez débattre le 15 avril avec moi.